Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Votre rendez-vous avec or.fr, achat et stockage d'or physique en nom propre avec accès personnel au coffre. Or.fr.
Avis de tempête ce matin, la tension monte autour de la dette américaine. Vous savez, on est à une semaine d'un possible shutdown, faute d'accord entre démocrates et républicains. Sauf que cette nuit, l'agence de notation Fitch a placé la dette américaine AAA sous surveillance négative. Antoine Larry-Gaudry.
Oui, le sacro-saint triple A sous surveillance avec implication négative, donc en vue d'une possible dégradation par l'agence Fitch. On a également la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, qui déclare hier que l'économie mondiale, déjà en proie à de fortes incertitudes, se serait quand même bien passée de ce nouveau théâtre de la dette américaine. Alors partout, on ne veut pas croire qu'un compromis ne sera pas trouvé. C'est vrai que c'est déjà arrivé régulièrement. On a même eu des périodes de défaut de shutdown technique pendant quelques jours, il y a quelques années. Mais globalement, tout le monde s'attend à ce qu'en compromis soit quand même trouvé à la dernière minute, reste que le processus a pris tellement de retard que certaines factures de l'État américain risquent de ne pas pouvoir être payées. Fitch le pense, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déjà émis l'hypothèse. Et pendant ce temps, les marchés stressent. Un témoin de tout ça, un indice de volatilité américain qui repasse les 20 points, un plus haut depuis le début du mois, et le CAC 40 qui signe ses plus bas de 2 mois en 2 séances. Wall Street tangue également et les taux longs, les taux 10 ans se tendent également aussi.
Merci Antoine, on en reparle hein, à la fin de ce journal avec un point complet sur les marchés. Ron DeSantis, officiellement candidat à l'investiture républicaine pour la Maison Blanche. Hein, le gouvernement conservateur de Floride l'a annoncé sur Twitter lors d'un échange audio avec Elon Musk, une opération de com qui a d'ailleurs tourné complètement au fiasco à cause d'une multitude de problèmes techniques qui ont fait que les internautes ils ont fini par se déconnecter. Sur le fond, Ron DeSantis a présenté un programme très conservateur comme son concurrent Donald Trump, mais sans ses outrances.
Ce sera le grand match du début de l'été. Ça se passera sur BFM Business. Le duel, le débat du MEDEF. Les deux candidats, donc Dominique Carlac et Patrick Martin, confronteront leur programme entre 18h et 20h lundi 26 juin. Nathan Cocampo, vous avez déjà commencé à décortiquer ces programmes.
Priorité pour Dominique Carlac, le travail et ses enjeux à venir, notamment le travail des jeunes et des seniors, centré sur les compétences à développer pour les métiers d'avenir. Du côté de chez Patrick Martin, son premier dossier sera les difficultés de recrutement. Compétences, formation, inclusion constitueront la mère de toutes les batailles. Il encouragera notamment la réforme des lycées professionnels. Sur la souveraineté, Dominique Carlac veut sortir de la naïveté dont les pouvoirs publics ont fait preuve. Face aux Américains et aux Chinois, il faut être plus agressif et cesser de subir les normes européennes dans tous les secteurs. Finance, chimie, assurance, l'Europe doit faire émerger des champions internationaux. Patrick Martin veut lui enrayer le délit réglementaire de l'Union européenne, continuer de faire baisser les impôts de production pour défendre la compétitivité des entreprises. Sur la transition énergétique, Dominique Carlac souhaite valoriser les résultats des entreprises en matière de RSE, exonérer les investissement R&D et continuer de soutenir la décarbonation des transports et des structures de distribution. Patrick Martin défend fermement le nucléaire et demande à ce que l'atome rentre dans la taxonomie européenne, un atout précieux pour la France qu'il faut défendre à Paris et à Bruxelles en renouvelant le parc français. Enfin, sur le rôle du MEDEF plus largement, Dominique Carlac veut un MEDEF d'action qui prend le leadership, plus offensif qu'il n'a pu l'être ces dernières années. Enfin, Patrick Martin, vice-président sortant, se place lui dans la continuité de Geoffroy Roux de Bézieux. Il souhaite aussi créer un poste de vice-président consacré à l'Europe pour renforcer le MEDEF à l'international.
Merci Nathan. Rendez-vous donc le 26 juin prochain à partir de 18h. Le marché de l'emploi des cadres toujours très dynamique hein, en 2022, mais aussi très très tendu. Les difficultés de recrutement n'ont cessé de progresser. Selon l'APEC, elle concerne plus de 6 entreprises sur 10. Dans ces conditions, les candidats sont rois, en particulier pour négocier leur salaire. Léo Dumas.
La souplesse fut le mot d'ordre en 2022 face aux difficultés pour recruter des cadres. 62% des entreprises ont dû revoir à la hausse la rémunération initialement prévue. C'est 7 points de plus qu'en 2020. Un levier salaire particulièrement utilisé par les grandes entreprises qui ont plus de marge de manœuvre. Elles sont 76% à l'avoir employé l'année dernière d'après l'étude de l'APEC. Mais pour faire aboutir les recrutements, les entreprises ont aussi dû s'adapter sur le profil des candidats retenus en privilégiant souvent des cadres moins expérimentés ou ayant moins de compétences techniques. Côté conditions d'emploi, 4 entreprises sur 10 assurent travailler sur leur attractivité en acceptant par exemple que les candidats soient à temps partiel, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont prêtes à céder sur tous les terrains. Plus de 80% rejettent en effet l'idée de réduire la période d'essai et 70% refusent d'accorder plus de télétravail que prévu.
Et on en reparlera à 7h45 avec Laetitia Niodo, la directrice générale adjointe de l'APEC.
Dans les télécoms, le pic des investissements des opérateurs est peut-être derrière nous. C'est ce que révèle le bilan annuel de l'ARCEP publié ce matin et que viendra nous détailler d'ailleurs sa présidente Laure de la Rodière à 8h15. Accalmie à venir donc sur l'investissement et dans le même temps, les revenus des opérateurs augmentent très légèrement. Raphaël Coudert.
14,6 milliards d'euros ont été investis par les opérateurs l'année dernière, un montant certes très élevé, mais légèrement en baisse pour la première fois depuis presque 10 ans. Les dépenses des entreprises du secteur proviennent toujours principalement du déploiement de la fibre et des antennes 5G, et ces efforts portent leurs fruits. Les abonnements à la fibre optique progressent encore de 11 points en un an, et ils sont désormais majoritaires pour la première fois sur l'ensemble des abonnements à Internet. La 5G continue elle aussi de se développer, avec désormais 10% des cartes SIM utilisées sur ce réseau. Dans le même temps, les revenus des opérateurs progressent pour la deuxième année consécutive. Ils ont atteint près de 37 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 2%. Cette croissance est entièrement portée par le marché mobile, précise l'ARCEP, et notamment la vente de smartphones dont les revenus augmentent de 5% en un an.
Les États-Unis dénoncent une cyberattaque d'ampleur parrainée par la Chine. Washington et Microsoft disent avoir mis à jour une campagne visant à perturber les infrastructures de communication essentielles entre les États-Unis et l'Asie lors de crises futures. L'attaque a été détectée sur la base américaine de l'île de Guam, c'est dans le Pacifique.
La saison des assemblées générales se poursuit et les directions, vous le savez, sont mises à rude épreuve. Cette fois, c'est chez McDo que ça se passe. Il faut que le géant du fast-food montre l'exemple sur les médicaments. C'est ce que dit le gestionnaire d'actifs français Amundi à l'occasion de l'AG aujourd'hui. C'est Thomas Schnell.
Les antibiotiques, c'est pas automatique. Or, on continue d'ingérer ces médicaments en trop grande quantité lorsqu'on se rend chez McDonald's. Amundi, actionnaire du géant américain, va pousser une résolution pour limiter les viandes aux antibiotiques, explique la responsable de recherche ESG chez Amundi, Caroline Lemot.
McDonald's est un gros acheteur de viande, notamment c'est le premier acheteur de viande aux États-Unis, par exemple. Et donc, ce qu'on pense, c'est que comme c'est un leader naturel, il va pouvoir, par la façon dont il va diriger ses achats, avoir un impact sur les producteurs de viande, pouvoir favoriser une meilleure pratique dans ce domaine.
Les viandes achetées par le géant américain de la restauration rapide contiennent certains antibiotiques jugés dangereux qui pourraient mener la population mondiale à une résistance à ces produits et réduire notre capacité à soigner des maladies.
L'OMS qualifie donc la résistance aux antibiotiques parmi les 10 plus gros risques dont fait face l'humanité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils estiment que potentiellement, on pourrait avoir plusieurs millions de morts sur une décennie ou plus à cause de cette résistance.
Une menace sanitaire qui fait aussi peser une menace économique sur l'entreprise. C'est avec cet argument qu'Amundi espère rallier la majorité des actionnaires à sa cause pour voter en faveur de la résolution.
Allez, un petit mot sur, pas la course GP Explorer 2, mais la course aux billets. On vous en parlait hier, la course de Formule 4 des stars du web organisée par le YouTuber Squeezie. Eh bien, comme l'année précédente, il n'a fallu que 30 minutes pour vendre les 60 000 billets pour cette course qui aura lieu au Mans. 30 minutes pour 60 000 billets.